Bon dimanche. J'ai le privilège de vous lire un passage qu'on voit pas souvent dans l'Ancien Testament. Tournez avec moi dans Genèse 32. Genèse 32. Je vais lire à partir du verset 23. Ça dit, il se leva, c'est-à-dire Jacob, la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à ce qui lui appartenait. Jacob reste seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Fait que ça, c'est le début de la lutte de Jacob. Maintenant, la conversation entre ces deux hommes. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Puis sa réponse, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Maintenant, l'épilogue ou le commentaire de l'auteur sur ce texte, sur cet événement. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face. » Et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Penuel, c'est un autre nom pour le même endroit. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'occasion que l'on a de te célébrer ce matin, mais aussi de recevoir ta parole. Fait que c'est ma prière qu'on le reçoive, Seigneur, qu'on la mange, qu'on soit prêt à t'écouter la voix de ton esprit à travers cet événement, à travers ce texte. Que tu nous donnes, Seigneur, de comprendre quelle est la mesure de ta bénédiction sur nous qui sommes en Christ, puis que tu nous donnes de recevoir cette bénédiction, la main ouverte. Dans le nom de Jésus, amen. Jason Elzy était le gars le plus tough en troisième année, sans question. Et moi, apparemment, j'étais le gars le plus idiot, parce que j'avais l'audace de dire à cette journée-là, à mon ami, que Jason n'était pas si tough que ça. Ça a donné que Jason était juste quelques personnes en avant de moi, parce qu'on faisait la file pour aller à la récréation entre nos classes. Puis le bruit de mes propos est parvenu jusqu'aux oreilles de Jason, puis je m'en rappelle comme si c'était hier que Jason, la terre a arrêté de tourner, puis Jason me regarde, il m'a dévisagé, puis dit « Benjamin, toi, puis moi ». Un à un. Dehors. Fait que, qu'est-ce que j'allais faire, tu sais? Mais j'avais vu en Espagne comment les matadors, là, face à un taureau enragé, ben, ils se tassent à la dernière minute. Fait que tu, c'est ma seule chance. Fait qu'effectivement, rendu dehors, dans la cour, Jason, il se reculait pour prendre son élan de vitesse, là, tu sais. Puis, à la dernière minute, moi, je me tassais comme ça. Puis, effectivement, il continuait. Ça a fonctionné. Puis, il a essayé ça après plusieurs tentatives. Bien, on dirait que, tu sais, il s'est vite découragé avec quelqu'un qui ne voulait pas vraiment lutter avec lui. Puis, il a décidé que, tu sais, jouer au football serait même plus amusant que ça. Fait qu'il est parti. Heureusement pour moi. Mais, des fois, ça prend une confrontation comme ça. Des fois, ça prend une lutte pour nous apprendre une leçon. Et moi, j'avais une leçon à apprendre cette journée-là. Pourquoi cette histoire spéciale est-elle dans nos Bibles? Bien, je pense que Jacob, lui aussi, avait une leçon à apprendre à travers cet événement, cette lutte, et apparemment, c'était la seule façon pour lui d'apprendre ce qu'il avait à apprendre. Le récit qu'on vient de lire est simplement l'apogée de toute l'histoire qu'on voit de Jacob dans le livre de Genèse. La tension dans l'histoire de sa vie, c'est que Jacob est déjà béni de Dieu. Et pourtant, toute sa vie se caractérise par la lutte pour la bénédiction par ses propres efforts. Dieu avait apparu à son grand-père, Abraham, puis il dit, « Tu as ma bénédiction. Je vais faire de toi une grande nation dans cette terre promise. Cette nation va bénir toutes les autres nations de la terre. » Pas pire. Même chose avec son père, Isaac, le père à Jacob. « Tu as mon regard favorable. » Même chose avec Jacob. « Tu as mon regard favorable en partant. Sois donc une bénédiction. » Pour ajouter à cette tension dans l'histoire, au lieu de vivre par la foi, en attendant que la promesse de Dieu se concrétise, ben Jacob se montre tricheur, trompeur, manipulateur, en luttant pour la faveur divine. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Jacob est en même temps tricheur et béni de Dieu. D'habitude, ça ne va pas ensemble. La leçon pour nous dans le texte, ce n'est pas ça. Je ne vais pas dire, je vais pas vous dire ce matin, mais soyez tricheur puis ça va bien aller. Non, le point se trouve ailleurs, on s'en va vers quelque chose. Mais Jacob continue d'être béni malgré lui, malgré sa fraude, malgré le conflit qu'il engendre avec tous ses proches. Son père, son frère Ésaü, son beau-père, ses femmes, et pourtant, Dieu continue d'affirmer sa faveur spéciale sur la vie de Jacob. Pensez avec moi un petit peu. Dans quelles circonstances de sa vie, selon le texte, le caractère de Jacob est-il manifeste? Qu'est-ce qu'on voit à sa naissance? Que faisait Jacob à sa naissance? OK, Ésaü est sorti, son jumeau est sorti en premier, mais là, Jacob tenait le talon comme pour prendre sa place. Quand que son frère Ésaü, plus tard, est rentré des champs, affamé, là, donne-moi un peu de cette roue-là, ces lentilles-là, là. Puis qu'est-ce que Jacob fait? Il dit, oui, je te le donne si tu me donnes ton droit d'aînesse. OK, il donne. À la fin de la vie de son père, il se prend pour un autre, pour Ésaü, pour voler la bénédiction paternelle. Maintenant, ayant volé 20 ans auparavant cette bénédiction paternelle qui appartenait à Ésaü, Jacob est maintenant obligé d'aller rencontrer son frère, à nouveau, qui s'en vient avec 400 hommes. Oups! Et dans le texte qu'on vient de lire, Jacob descend la côte raide vers la gorge de cette rivière qui s'appelle Yabok, avec sa famille, c'est bien. Il fait traverser ceci, puis là, il attend seul. Pourquoi seul? Bien, le texte ne nous dit pas. Voulait-il méditer de ce qui allait se produire le lendemain? Avait-il peur? Il reste seul. Le texte est trop concis, ça ne nous dit pas. Mais avec sa famille, déjà en sécurité, l'autre côté, campé, là, sur le plateau, l'autre bord, le patriarche, entouré, on peut s'imaginer, la flore et la faune de cette région tropicale, bien, il se fait attaquer par un inconnu dans l'obscurité. Puis on se pose la question, est-ce que Jacob va enfin avoir un juste retour de choses pour ses tromperies? Qui a attaqué d'abord? Qui a attaqué selon le texte? Est-ce que c'était Jacob ou l'homme? Qui est l'homme? OK, l'ange de l'Éternel. OK, oui. Plus tard, il va dire, j'ai vu Dieu face à face, mais c'est sa façon de Dieu. Puis que Dieu a envoyé un agent divin. Puis même le prophète Osée nous dit que c'était un ange. Mais j'aimerais souligner, dans le début de cette lutte, que c'est l'agent divin qui a attaqué d'abord, pas Jacob. Dieu dit à Jacob, à travers cet événement, OK, d'abord, tu veux lutter pour ma faveur? Bien, je vais lutter avec toi, mais pas pour te détruire, mais plutôt pour te transformer afin que tu acceptes ma bénédiction comme il faut, comme je veux. Encore l'ironie qui se joue à maintes reprises dans l'épopée des patriarches qu'on lit, là. Et l'ironie de nos vies aussi, c'est que Dieu apparaît au début de l'histoire, puis il dit, « Je vous donne ma faveur, la bénédiction vous appartient, je vous ai choisi en Christ. En effet, c'est un cadeau, prends-le. » Par la suite, les patriarches, qui représentent bien sûr le peuple d'Israël et nous aussi, bien, tentent d'obtenir par toutes sortes de moyens d'action la bénédiction promise pour eux-mêmes, tandis que Dieu avait déjà dit, je m'en occupe. Jacob ne comprenait pas encore que la faveur divine est un cadeau à accepter plutôt qu'un prix à gagner par nos propres efforts. Il a pensé que la faveur divine, ça vaut aux personnes les plus débrouillards. Mais son moment crise s'en vient avec cette lutte. Alors, qu'est-ce que Jacob va faire avec cet homme? Que ferais-tu? Il se défend. Il va lutter avec l'agent divin, pour sauver sa vie. Mais dites-vous bien qu'il ne sait pas encore qui c'est, apparemment. Mais il lutte avec. Puis le portrait que donne le texte, c'est de deux hommes luttant dans un combat mortel au fond de cette gorge toute la nuit. Il n'est pas question de WWF ici, là. Avez-vous écouté ça? Moi, j'écoutais ça avec mon frère, là, quand on grandissait. Puis là, on l'écoutait, puis après ça, on pratiquait ensemble. Tu sais, les moves. Mais là, ça, c'est toujours bien fini. Mais là, c'est sérieux ici. C'est pas du WWF. Mais l'ironie, peut-être vous l'avez constaté dans le texte, l'ironie dans cette lutte, c'est que Jacob est en quelque sorte plus fort que l'ange. Avant que vous ne criez hérésie, là, regardez le verset 26 avec moi. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, c'est-à-dire l'agent divin, l'ange, voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Et Jacob, ailleurs, est présenté comme une espèce de Superman. À la rencontre, c'est vrai, à la rencontre de sa future femme, Rachel, bien, il roule une pierre énorme toute seule, lorsque d'habitude, ça prenait toute l'équipe de bergers pour le faire. Alors, Jacob est doué, sous-entendu, de la part de Dieu, avec une force qui est surhumaine. Et on le voit ici dans cette lutte. De sorte que l'agent, même l'ange, n'est pas capable de voir, d'avoir le dessus. Autrement dit, manquez pas ça, avec toute la force que Dieu lui donne, Jacob lutte contre Dieu. Au lieu de vivre par la foi avec sa main ouverte pour recevoir la bénédiction que Dieu avait déjà promis. Alors, l'adversaire est obligé de toucher, apparemment de façon miraculeuse, la hanche à Jacob pour le blesser. Mais même là, Jacob est capable, sa force est telle qu'il est capable de tenir son adversaire, même en étant blessé. Fait que pourquoi l'adversaire a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il touché sa hanche? Bien, encore Jacob doit apprendre que la faveur de Dieu, ça ne va pas au plus doué, mais ça s'avère plutôt un cadeau à accepter. Donc, manquez pas ça au début de cette lutte, que c'est Dieu qui débute la lutte afin d'apprendre quelque chose à Jacob concernant la faveur divine. Maintenant, on va voir la deuxième partie de ce texte, c'est la conversation entre Jacob et l'homme. Ça va nous montrer la façon que Dieu va transformer Jacob. Même en étant blessé, Jacob est capable de dire « Oh, ça fait mal, mais oh, je te laisserai point, au moins que tu me bénisses! » Wow, c'est un gars quand même résolu. Encore, cette histoire, ce n'est que l'apogée du récit concernant Jacob puis son désir ardent d'avoir la bénédiction de Dieu qu'il possédait déjà par la promesse de Dieu. Maintenant, pourquoi, d'après vous, l'adversaire demande-t-il le nom de Jacob? Est-ce qu'il veut faire sa connaissance? Ou... Content de vous rencontrer après avoir lutté? Pourquoi il demande son nom, d'après vous? C'est spécial. Bien, les noms bibliques sont souvent porteurs de sens concernant le caractère de quelqu'un. Et le sens figuré du nom Jacob, supplanteur ou même trompeur, quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre par tromperie, ce nom-là, ce sens-là est exploité au cours de ces chapitres comme étant un vrai reflet de son caractère. C'est donc important que l'agent divin change son nom. Parce que changer le nom de quelqu'un, ben, c'est changer leur caractère, c'est changer leur identité, voire changer leur sort, leur destinée. Manquez pas une fois encore que c'est Dieu qui prend l'initiative non seulement pour la lutte, mais également pour changer le nom de Jacob en Israël. Oui, il est déjà béni, mais Dieu veut qu'il accepte cette faveur divine selon l'intention voulue, comme un cadeau à prendre la main ouverte et non pas par ses propres efforts. En quoi son nom est-il changé donc? Jacob en Israël. Israël veut dire quelqu'un qui a affaire avec Dieu ou quelqu'un qui lutte même avec Dieu. Le verset 29, regardez-le. À la fin du verset 29, ça dit non seulement que Jacob a lutté avec Dieu, mais qu'il a gagné. Il a lutté avec Dieu, avec les hommes, puis il a été vainqueur. Ben, vainqueur, dans quel sens? Est-ce qu'il était vainqueur que par ses tromperies? Ça serait bizarre. Il est vainqueur au moment où, justement, il commence à reconnaître que la faveur divine est un cadeau. Il est vainqueur au moment où il dit, en effet, il prie, puis il dit, « Seigneur, c'est toi la source de la bénédiction, bénis-moi. » Il est vainqueur au moment où il dit son nom, « Je suis Jacob, je suis un tricheur et je me vois comme Dieu, comme tu me vois. » Jacob admet qu'il voyait auparavant la bénédiction comme un prix à gagner par ses efforts. Mais l'auteur, il va nuancer cette victoire de Jacob Parce que si Jacob a gagné, mais Dieu n'a pas perdu. Dieu a également gagné parce que son intention que la bénédiction soit reçue comme un cadeau, ça se réalise enfin dans la faiblesse de Jacob. Et Jacob va retenir le signe de cette lutte. Qu'arrive-t-il après la lutte? Lisons avec moi les versets 31 et 32 pour voir le commentaire de l'auteur sur cet événement. C'est important à ne pas manquer. 31. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Penuel. Jacob boitait de la hanche. Pourquoi l'auteur, d'après vous, souligne-t-il que Jacob boitait de la hanche? Il prend la peine de dire ça. OK, oui, c'était pas un rêve. Oui, c'est bon. C'était quelque chose de tangible qu'il portait avec lui après. Oui, la bénédiction de Dieu est assurée sur la vie de Jacob, mais Jacob boitait pour vrai quand même en quittant cette scène. En marchant vers la rencontre de son frère Ésaü, le patriarche, il porte un signe tangible de la leçon qu'il a dû apprendre au gué du Yabok. Parce que dans notre histoire, Jacob est sur le point de présenter plein de cadeaux à son frère Ésaü pour l'apaiser, pour obtenir sa faveur, dans le fond. Et l'ironie, c'est que Jacob n'avait même pas à le faire, parce qu'avant cette histoire, Jacob avait prié Dieu, « Seigneur, change le cœur d'Ésaü. » Et c'est la façon que l'auteur dit, « Garde, ce n'était pas les plans, puis les tromperies, les cadeaux de Jacob qui sont avérés efficaces, mais c'était sa prière. » Puis Jacob, en voyant Ésaü qui court à sa rencontre, les bras ouverts, un peu comme le père qui court au fils prodigue dans l'Évangile de Jean, bien, il commence à comprendre le chemin de la foi. Puis à la fin de sa vie, les paroles de Jacob dans le récit sont importantes. Il dit, « Dieu a veillé sur moi tout au long de mon cheminement. » Il reconnaît à la fin de sa vie que Dieu était en fin de compte pour lui et non pas contre lui. Et que la bénédiction était assurée par la main divine et non pas par sa main. Pourquoi ce récit est-il dans le texte? Bien, il est fort probable que le peuple d'Israël se voyait chez Jacob. La nation s'identifie à l'homme qui portait son nom en premier. Et comme leur ancêtre, ce patriarche Israël, Jacob, c'est un peuple choisi et aimé de Dieu, luttant inutilement pour obtenir le prix de sa faveur et boitant parce que la grâce de Dieu est plus forte que nous. Et que parfois, Dieu doit nous briser pour qu'on accepte sa grâce. D'où l'explication, d'ailleurs, du verset 33. Pourquoi c'est un fait intéressant, historique? C'est pourquoi on ne mange pas le tendon à l'articulation de la hanche d'un animal. Bien, c'est quoi le rapport? Bien, c'est que cet événement nous a tellement marqués que c'est reflété dans nos traditions jusqu'à aujourd'hui. Ça nous habite encore. Et nous aussi, on se voit là-dedans, je pense, dans cette lutte de Jacob. Quand Dieu t'a choisi, si tu es en Christ par la foi, il t'a choisi pour la vie. Avec Jacob, il apparaît au début et il dit, « Jacob, tu as ma bénédiction. » au lieu d'Ésaü. On ne comprend pas pourquoi Jacob au lieu d'Ésaü, mais c'était comme ça. La faveur de Dieu a été sur Jacob. Et le message dans le récit, pour nous, je crois, c'est encore accepter la faveur de Dieu comme un cadeau et non pas comme un prix à gagner par nos propres efforts. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dans une de ses lettres, il dit « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Je ne suis pas un expert en français, là, mais « nous a bénis », c'est déjà accompli à la croix. Et nos bénédictions en découlent par notre lien de foi avec Jésus. Nous, on a la misère à accepter des cadeaux, à accepter le fait que quelqu'un soit bien disposé à notre égard. Des fois, je blague avec mon épouse, puis je dis à Caroline, je fais quelque chose de pas pire, de bon. Puis je dis, m'aimes-tu plus maintenant? Tu sais, m'aimes-tu plus? Puis je vous dis que ça marche jamais. À chaque fois qu'elle dit non, ben pourquoi elle dit non? Ben c'est que elle ne m'aime pas pour ce que je fais. Elle m'aime pour qui je suis. Et de la même manière, vous qui êtes parents, si vos enfants font quelque chose de vraiment bon, là, vraiment un bon coup, ben allez-vous les aimer plus? Non. Si, par contre, vos enfants font quelque chose de vraiment poche, là, de terrible, allez-vous les aimer moins? Non. Idéalement, non. Vous êtes déjà bien disposé envers vos enfants parce que c'est vos enfants. Et dans sa parole, même passage que je viens de mentionner, Dieu nous dit, « Dans mon amour, j'ai choisi de vous adopter en Jésus-Christ comme mes enfants, selon ma bienveillance. » Le message, c'est arrêter de lutter pour sa faveur, même après que vous êtes sauvés. Je ne sais pas où vous en êtes rendu, mais c'est possible de dire, je suis converti par sa faveur, puis après ça, je dois lutter encore pour son regard favorable envers moi. Manquez pas le point. C'est pas que je dis que je dois pas faire un effort dans la vie chrétienne, c'est pas ça. Mais c'est pas pour gagner la bénédiction que j'ai déjà par mon lien de foi avec le Seigneur Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Et puis, si vous n'avez pas, si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas ce lien de foi avec Jésus et toutes les bénédictions qui en découlent, bien, je vous encourage fortement d'en parler avec la personne qui vous a amené. Pour certains, il va falloir peut-être vous séparer de l'idée d'un père dont l'amour n'était pas constant, dont la faveur n'était pas inconditionnelle. Puis après ça, d'apprendre à connaître notre Père céleste, dont la faveur est tout à fait différente. Pour d'autres, il est peut-être question simplement d'un rappel ce matin. Une occasion de s'identifier avec le patriarche, avec Jacob qui luttait inutilement pour une bénédiction qui était déjà assurée par la main de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour les occasions que tu nous donnes d'apprendre des autres, d'apprendre de quelqu'un comme Jacob qui luttait pour quelque chose qui était déjà assuré. Puis nous, des fois, on a la misère à accepter le fait que tu sois bien disposé envers nous, Seigneur, à cause de notre lien de foi avec Jésus, que tu le vois quand tu nous regardes. Seigneur, donne-nous à travers ce texte de l'accepter à nouveau, toutes les bénédictions que tu nous donnes, puis d'arrêter de lutter pour ta faveur, puis peut-être pour quelques-uns, pour la première fois, d'accepter ta faveur comme le cadeau que c'est. Dans le nom de Jésus. Amen.